Chapitre 2. Le comte Muffat. Le comte Muffat, accompagné de sa femme Sabine et de sa fille Estelle, était arrivé au Fondette, où Madame Hugon, qui s'y trouvait seule avec son fils Georges, les avait invités à venir passer 8 jours.
« J'attends du monde, » dit-elle. « D'abord 2 messieurs que Georges a invités, messieurs Fauchery et Daguenet, puis le comte de Vandœuvre. »
On sert le café. Le nom de Steiner est prononcé.
« En voilà un vilain homme, » dit Madame Hugon. « Il a acheté une maison pour une actrice à 1 heure d'ici. Le pays est choqué. »
Georges baisse le nez dans sa tasse.
« Est-ce que Monsieur Steiner n'est pas avec cette nana ?» dit la comtesse. « Nana, c'est bien ça, une horreur !» crie Madame Hugon. « On l'attend ici. Je sais tout par le jardinier. »
Georges, en sortant de table, dit qu'il a très mal à la tête. Vers 4 heures, il monte se coucher jusqu'au lendemain. Mais le soir, il ouvre la fenêtre et cède d'une gouttière pour descendre. Steiner avait acheté une maison de campagne à Nana au mois de mai, et Nana avait décidé qu'elle irait le 15 septembre. Un après-midi, elle avait promis à Muffat, à qui elle résistait, d'être gentille avec lui là-bas. Et elle lui avait indiqué la date du 15. Mais le 12, elle avait eu envie de partir pour être tranquille 2 jours. La voiture de Nana était arrivée devant sa maison. Sans enlever son chapeau, elle court visiter. Du grenier, elle regarde le jardin.
C'est plein de choux et de salade. Viens vite, Zoé.
La pluie tombait. Elle ouvre son ombrelle et cueille des fraises, les mains trempées. Quand elle se relève, elle croit voir une ombre.
Une bête !
Crie-t-elle. Mais c'était un homme, et elle l'avait reconnu.
Qu'est-ce que tu fais là ? Tu savais donc mon arrivée par le jardinier ? Oh, cet enfant ! Et il est mouillé !
Tu sais, dit Georges, je me cachais parce que j'avais peur que tu me grondes comme à Paris quand je suis venue te voir sans être attendue.
Elle rit. Il rentre. Elle demande qu'on allume un feu dans sa chambre, puis elle lui fait enlever ses vêtements et mettre les siens. 10 minutes plus tard, elle revient en robe de chambre.
« Oh, comme il est mignon en petite femme !»
Il mange comme des ogres, en camarades qui ne se gênent pas. Mais il se faisait tard, elle voulait renvoyer le petit chez lui, qui répétait qu'il avait le temps. Zoé était montée se coucher, ils étaient seuls. Nana se lève pour ouvrir la fenêtre. Georges s'approche, prend Nana par la taille et lui met sur le cou de petits baisers.
« Non, laisse-moi, je ne veux pas. Ce serait très vilain à ton âge. »« Oh, c'est mal, »
dit-elle après un dernier effort. Et elle tombe en vierge dans les bras de cet enfant. Le lendemain, au Fondette, il y avait beaucoup de monde. Une première voiture avait amené Fauchery et Daguenet, et derrière eux venait d'arriver le comte de Vandœuvre. Georges descend un peu pâle. On voit alors entrer le marquis de Chouard.
« C'est donc un rendez-vous ce matin ? Que se passe-t-il ? »
dit Madame Hugon. Fauchery se trouvait près de la comtesse Sabine, qui le surprenait par sa gaieté.
« J'ai une nouvelle voisine que vous devez connaître, »
dit Madame Hugon.
Une certaine Nana.
Vandœuvre joue la surprise.
Comment ? La maison de Nana est près d'ici ?
Fauchery et Daguenet jouent aussi la surprise. Le marquis de Chouard mange sans paraître comprendre.
Cette personne est arrivée hier soir. J'ai appris ça ce matin par le jardinier.
Tous ces messieurs lèvent la tête. Nana était arrivée. Il ne l'attendait que le lendemain. Muffat ne comprenait pas. Il avait une promesse pour le 15, pourquoi était-elle arrivée 2 jours plus tôt? Il irait chez elle le soir même après le dîner. On finissait de manger.
Fauchery était de plus en plus troublé par les rires de la comtesse Sabine.
Le soir, le comte sort du parc. Georges s'enfuit derrière lui. Il arrive chez Nana avec des larmes plein les yeux. Ah, il avait compris. Le vieux venait pour un rendez-vous. Nana, étonnée de cette scène de jalousie, le prend dans ses bras.
« Monte vite, caché dans ma chambre, et attends-moi. »
Georges lui saute au cou. C'était donc vrai, elle l'aimait un peu.
Alors, comme hier ?
Nana reçoit le comte Muffa. Depuis 3 mois, elle le faisait attendre.
Eh bien, il attendrait encore.
Elle ne voulait pas tromper Georges. Mais le comte, qui pensait à Nana toutes les nuits, l'attrape à 2 mains.
« Voyons, chérie, tiens-toi tranquille. Steiner est là-haut. »
C'était vrai. Steiner était arrivé le matin. D'ailleurs, il descendait.
« Chérie, le comte Muffa a vu de la lumière en se promenant et il est entré nous dire bonjour. »
dit Nana. Les deux hommes se serrent la main. Très vite, Muffa part. Steiner monte se coucher. Nana rejoint Georges. Les jours suivants, Nana, entre les bras du petit, retrouve ses 15 ans. Cette belle vie dure près d'une semaine. Le comte Muffa venait tous les jours et s'en allait, les mains brûlantes. Nana ne voulait pas tromper Georges, un petit si innocent et qui croyait en elle. Le 6e jour, une bande de visiteurs arrive. Nana avait invité un tas de gens, croyant qu'ils ne viendraient pas. On décide qu'on ira le lendemain visiter une ancienne abbaye. Ce soir-là, Nana demande à Georges de l'accompagner à l'abbaye. Il hésite, mais elle pleure. Et il promet de venir. Au fond d'être, Fauchery était devenu le cavalier de la comtesse Sabine, le comte s'absentant souvent. Le vendredi, au déjeuner, M. Théophile Venot arrive. On le disait très croyant. Un peu plus tard, le comte Muffa revient au bras du bonhomme, très pâle, les yeux rouges comme s'il avait pleuré.
« Ils auront parlé de l'enfer !»
murmure Fauchery en riant. Après le déjeuner, Madame Hugon propose de faire une promenade à pied. Fauchery et Daguenet sont en avant avec les dames Muffa. Le comte et le marquis viennent ensuite aux côtés de Madame Hugon. Vendeuvre marche derrière. Monsieur Venot va d'un groupe à un autre.
Ce pauvre Georges, dit Madame Hugon. Il est parti voir le docteur Tavernier pour ses maux de tête. Tiens, pourquoi s'arrête-t-il sur le pont?
En effet, ces dames, Daguenet et Fauchery, ne bougeaient plus. Tout à coup, 5 voitures arrivent.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Demande Madame Hugon, surprise. Puis elle sent, elle devine.
« Oh, cette femme !»
murmure-t-elle. Les 5 voitures qui conduisaient Nana et ses amis arrivent sur le pont. Nana avait devant elle, sur un strapontin, ce pauvre petit Georges. La comtesse et Nana s'examinent. Le comte aurait crié de souffrance. Il venait de comprendre, en apercevant Georges dans les jupes de Nana. Elle lui préférait un enfant. Steiner n'était pas un problème, mais un enfant.
« Oh mon Dieu !»
dit tout à coup Madame Hugon.
« Georges est avec elle !»«
Eh bien, » dit Nana à Steiner. « Elle est peut-être comtesse, mais c'est une pas grand-chose. Voulez-vous parier qu'elle couche avec Fauchery ? On sent bien ça entre femmes. »
Steiner hausse les épaules.
« Et ce pauvre bébé ?»
continue Nana, en s'apercevant de la pâleur de Georges.
« Croyez-vous que maman m'ait reconnue ?»
demande Georges.
« Oh, ça oui, elle a crié. Aussi, c'est ma faute. »
Le soir, Georges rentre au fond d'être pour dîner. Son frère Philippe, un grand militaire, était arrivé. Madame Hugon le regarde avec des yeux pleins de larmes. Et Philippe le menace d'aller le chercher par les oreilles s'il retourne chez cette femme. Au dîner, les invités semblent gênés.
Vandœuvre annonce son départ, le marquis de Choire a le nez dans son assiette, le comte Muffat reste silencieux. Après le dîner, il monte. Monsieur Venot le suit et, d'une voix douce, lui conseille de demander l'aide de Dieu. Le comte pleure doucement. Tout d'un coup, il se lève.
« J'y vais. Je ne peux plus. »
Chez Nana, on montait se coucher quand Muffat arrive. On le conduit jusqu'à la chambre de Nana. Nana n'est pas surprise. C'était trop bête d'aimer un jeune. Ça ne servait à rien. Elle devenait sérieuse. Elle prenait un vieux. Et elle couche avec Muffat, mais sans plaisir. 3 mois plus tard, le comte Muffat marchait dans Paris le soir. Il songeait à Nana. Pourquoi venait-elle de mentir une fois encore? Le matin, elle lui avait écrit de ne pas venir le soir en disant que son fils était malade. Mais il avait des soupçons. Alors il était venu chez elle et avait appris que madame était partie au théâtre. Au début, après son retour de la campagne, elle le rendait fou quand elle le baisait autour de la figure, en lui jurant qu'il était le seul homme qu'elle aimait. Il n'avait plus peur de Georges, prisonnier au fond d'Ette. Restait le gros Steiner, qu'il pensait remplacer. Depuis 3 mois, il découvrait les plaisirs de la chair. Mais Nana avait changé. Cela l'inquiétait. Il était 9 heures. Nana allait sortir du théâtre. Sa femme était chez une amie malade. Il était libre. Arrivé devant le théâtre, il attend. Justement, Nana descendait les marches. Elle devient toute blanche lorsqu'elle aperçoit Muffat.
« Ah, c'est vous ? » dit-elle. « Eh bien, donnez-moi le bras. »
Le comte, qui avait préparé des questions, ne parle pas. Elle lui raconte une histoire. Voyant son fils beaucoup mieux, elle avait eu l'idée d'aller au théâtre. Il n'avait plus de colère, il voulait seulement rester avec elle.
« Tu m'accompagnes chez moi ?»«
Bien sûr, puisque ton fils va mieux. »«
C'est vrai, tu es libre ce soir, »
murmure-t-elle. « Ta femme ne revient que demain matin, n'est-ce pas ?»«
Oui, » répond Muffat, un peu gêné.
Elle voulait manger des huîtres. Il rentre dans une pièce privée d'un restaurant lorsque d'un salon voisin, un homme sort. C'était Dagnet.
« Tiens, Nana »
crie-t-il. Le comte disparaît dans le cabinet.
« Que deviens-tu ? »
demande-t-elle amicalement.
« Je songe à me marier. »« Mon pauvre ! À propos, as-tu lu l'article de Fauchery sur moi ?»«
Oui, » répond Dagnet.
« Je ne t'en parlais pas, craignant de te faire de la peine. »« Pourquoi ?»
Nana avait fait un pas vers le petit salon où Muffat attendait.
« Eh bien, adieu, »
dit Dagnet. « Va retrouver ton cocu. »
Elle s'arrête.
« Pourquoi l'appelles-tu cocu ?»«
Comment, tu ne sais pas ? Sa femme couche avec Fauchery, ma chère. Ils ont inventé un voyage, je crois. »«
Je m'en doutais, »
dit-elle.
« Une femme honnête tromper son mari ? Quel joli monde !»
Nana et le comte rentrent ensemble. Il était 11 heures. Avant minuit, elle aurait bien trouvé un moyen pour le faire partir.
« Je n'ai pas sommeil, je ne me couche pas, » dit-elle.
« Comme tu voudras, » murmure-t-il.
Nana aimait se déshabiller en face de son armoire à glace. Puis, toute nue, elle se regardait longuement.
« Tu as lu l'article du Figaro ? Le journal est sur la table. On dit qu'il parle de moi. Qu'en penses-tu ? »
Muffat lisait lentement. L'article de Fauchery racontait l'histoire d'une fille née de 4 ou 5 générations d'ivrognes. Elle avait grandi dans un faubourg, et grande, belle, elle vengeait les pauvres et les malheureux comme elle en séduisant et en ruinant les riches.
« Eh bien ?»
demande Nana. Le comte ne répondait pas. Il la regardait. L'article avait raison.
« Il y a longtemps que tu es mariée ?»
demande Nana.
19 ans.
Tu ne couches plus avec ta femme ?
Non, je te le jure, dit Muffa. Que ferais-tu si ta femme te trompait?
Il a un geste menaçant. Il l'énervait. Il fallait qu'il parte.
Mon petit, dit-elle, tu m'ennuies depuis 2 heures. Va donc retrouver ta femme qui couche avec Faucherie, rue Têtebout. Je te donne l'adresse.
Elle ne peut continuer. D'un mouvement terrible, il l'avait jetée par terre et, levant le talon, il voulait lui écraser la tête pour la faire taire. Elle a peur. Mais il remet ses bottines et son manteau et part. Dehors, Muffa marchait violemment. Cette fille mentait. Elle avait inventé cette histoire par cruauté. Il pleurait.
Mon Dieu, c'est fini. Il n'y a plus rien.
À mesure qu'il y pensait, l'histoire de sa femme avec Faucherie devenait possible. Il pleurait violemment en marchant. Enfin, il lève les yeux. Il était arrivé. Il était déjà venu chez le journaliste. Un rayon de lampe passait entre les rideaux entrouverts. Il allait partir quand une ombre passe devant la fenêtre. Il ne voyait rien nettement, mais il lui semblait reconnaître un chignon de femme. À cette heure, il ne savait plus. 3 heures, puis 4 heures du matin. La lumière disparaît. Il part. Le jour se lève. Il cherche une église et entre. Il répétait
« Oh mon Dieu, aidez-moi. N'abandonnez pas votre créature. »
Puis machinalement, il retourne chez Nana. Lorsque Zoé lui ouvre, elle semble inquiète. Nana arrive.
« C'est encore toi ? » crie-t-elle toute rouge. « Qu'y a-t-il donc ? Tu les as surveillés ? Maintenant, mon petit, il faut rentrer chez toi et te coucher. »
Il ne bougeait pas.
« Couchons-nous, » dit-il.
Alors elle éclate.
« Vas-tu me lâcher ? J'en ai assez !»
Elle s'avance vers lui, menaçante. Brusquement, la porte s'ouvre et Steiner entre. Elle crie.
« Voici l'autre à présent. Que veux-tu ? Finalement, je suis contente que tu sois venue aussi parce que le balayage va être complet. Allez, oups ! Dehors, vous deux !»
Il ne bougeait pas.
« Vous refusez de partir ? Eh bien, voyez, je ne suis pas seule. »
D'un geste brusque, elle ouvre la porte de la chambre. Les deux hommes aperçoivent Fontan au milieu du lit défait. Depuis 8 jours, Nana, devenue amoureuse du comique, allait le chercher au théâtre. Muffa, qui avait tout accepté, se révolte.
« Putain !» dit-il.
« De quoi, putain ? Et ta femme ?»
crie Nana. Et elle referme la porte. Les deux hommes restés seuls se regardent en silence. Sur le trottoir, ils se donnent une poignée de main puis s'éloignent, chacun de son côté.